À partager la parole de Dieu, c'est ma passion. La parole de Dieu, la Bible. Alors, nous allons lire ensemble un texte biblique très connu dans Jean au chapitre 6, les versets 1 à 14. Jean 6, 1 à 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun ait reçu un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors, c'est un texte extrêmement riche. Cette histoire des 5 pains et des 2 poissons, je suis sûr que vous la connaissez parfaitement. Vous savez qu'on retrouve cette histoire dans les 3 autres évangiles. Dans Marc au chapitre 6, les versets 35 à 44. Dans Matthieu au chapitre 14, les versets 15 à 21. Et dans Luc au chapitre 9, les versets 12 à 17. Alors, cette histoire de la multiplication des pains et des poissons, c'est une histoire qui est relatée dans les 4 évangiles. Alors, une question, pourquoi est-ce que c'est relaté dans les 4 évangiles? Toutes les histoires de la Bible ne sont pas forcément dans les 4 évangiles. Certaines, oui, comme la résurrection de Jésus, c'est dans les 4 évangiles. Celle-là aussi, mais pas toutes. Pourquoi celle-là, elle l'est? Eh bien, parce qu'elle est importante. Quand on répète 4 fois la même chose, ben, généralement, c'est que ce qu'on a à dire est vraiment important. Alors, au diapo 2, le contexte. Le contexte dans lequel cette histoire se passe. Jésus exerce son ministère en Galilée. Alors, avant d'arriver en Galilée, eh bien, il est passé d'abord par la basse Galilée. On a la haute et la basse Galilée. Mais avant même d'arriver en basse Galilée, il a exercé son ministère ailleurs. Et ce qui a caractérisé cette phase du ministère de Jésus, c'est toutes les guérisons physiques qu'il a opérées et les démons qu'il a chassés et la notoriété qu'il s'est faite là autour. Les gens ont commencé à connaître Jésus en disant « Mais dis donc, il y a un prédicateur qui traverse nos villages, il y a des guérisons absolument spectaculaires, ça vaut la peine d'aller voir parce que là, c'est du costaud, quoi. » Alors, en basse Galilée, un nombre impressionnant de miracles et il arrive en haute Galilée. Et c'est là qu'il exerce son ministère et c'est là que les foules l'ont suivi parce qu'elles ont envie de voir Jésus. Pour quelles raisons elles ont envie de voir Jésus, ça reste un mystère. Certains sont touchés par son message, mais d'autres veulent voir du surnaturel, du spectacle. au lieu d'aller au cinéma, ben, tiens, on va voir Jésus, parce qu'on a peut-être des chances de voir un mort ressuscité, c'est sympa. Hein. On aura des petits frissons. Donc, la Bible ne le dit pas, mais on peut tout à fait supposer que des gens sont sérieux dans leur recherche et dans le fait qu'ils suivent Jésus, puis d'autres, ben, ils sont là, on ne sait pas pourquoi. Alors, Jésus exerce son ministère en Galilée. Jésus guérit la fille d'un officier royal. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un officier royal, sa fille est guérie, ce n'est pas quelqu'un de lambda. Dis donc, la fille de notre officier a été guérie. Mais tu te souviens, tout le monde sait qu'elle était malade. Jésus l'a guérie. Et ce type de guérison-là augmente la notoriété de Jésus. Ces miracles extraordinaires suscitent l'enthousiasme. Et à un moment donné, Jésus, qui est constitué de la même nature que nous, il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, il est fatigué. Si vous marchez, vous exercez le ministère, vous chassez des démons, vous priez pour les gens et vous faites ça du matin au soir, et bien à un moment donné, Jésus est fatigué et il se retire avec les 12 disciples, souhaitant prendre un peu de repos, mais la foule l'a suivi et la foule est là. Jésus se retire avec les 12, mais la foule l'a suivi. Alors Jésus sort de son repos et il se met à enseigner la foule. Et il y a 5000 hommes. Ce n'est pas n'importe quelle foule qui a suivi Jésus depuis la basse jusqu'à la haute Galilée. C'est 5000 hommes, nous dit le texte. Donc on peut imaginer que les femmes sont là aussi. Ce n'est pas une réunion d'hommes de l'Église. Les femmes suivent et les enfants aussi. On a en tout cas un enfant qui a suivi. C'est celui qui a les 5 pains et les 2 poissons. Mais j'imagine qu'il y a d'autres enfants qui ont suivi leurs parents. Donc 5000. Mais si vous rajoutez les femmes et les enfants, là le texte ne le dit pas, mais j'imagine qu'il y a peut-être 10 ou 15 000 personnes. Alors on ne va pas spéculer là-dessus. Mais 5000 hommes plus les femmes et les enfants. Et il n'y a rien à manger, sauf les 5 pains et les 2 poissons. Allons plus loin. Jésus va se tourner vers ses disciples en leur disant, ben, donnez-leur à manger. Il y a 2-3 détails dans le texte qu'on va relever. Il est tard, donc les magasins sont fermés, hein. Et c'est un lieu désert, donc il n'y a de toute façon pas de magasin. Donc c'est comme si vous retrouvez tout en haut du Chasseral le samedi à 9h du soir, ben, il n'y a pas de magasin. Et puis même s'il y en avait un, ben, ça serait fermé à 9h du soir. Donc du coup, on a 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. J'imagine que les enfants commencent à pleurer. Hein. Moi, j'ai 2 petites filles, quand elles ont faim, ben, elles n'attendent pas. Hein. Ça pleure, quoi. Bon, moi aussi. Hein. Et ma femme me dit, dis donc, attends un moment, dans un quart d'heure, c'est prêt. Alors, on a cette foule qui est dans un lieu désert. Le texte nous dit que l'herbe est haute. Au moins, il y a ça de positif, c'est qu'on peut s'asseoir quand l'herbe est haute. Hein. Mais c'est un lieu désert. Et vous voulez aller chercher où la nourriture pour nourrir autant de monde ? Et Jésus se tourne vers les disciples en leur disant, ben, donnez-leur vous-même à manger. Et un des disciples dit, oui, mais on n'a rien. Oui, ben, y a bien un gamin qui a 5 pains et 2 poissons. Sa mère a été prévenante, elle lui a mis 5 pains et 2 poissons, peut-être vite en partant dans la poche. Les disciples, ils sont là, bouche bée, devant Jésus, face à la foule, et avec ce gamin qui a les 5 pains et les 2 poissons. Ben, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Voilà, j'ai l'impression qu'on est souvent, en tant que disciples de Jésus, dans ce type de situation. On est face à des situations improbables. Hein. Il est tard, il n'y a plus rien à manger. On ne peut pas aller au magasin, même pas pour nourrir 10 personnes. On est dans un lieu désert. Et Jésus nous dit, ben, allez, faites quelque chose. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus ? Jésus, lui, il a toujours une longueur d'avance. Jésus voit plus loin que nous. Jésus avait déjà prévu de nourrir la foule par un miracle. Jésus le sait. Jésus se dit, bon, ben, moi, je vais faire un miracle, mais je ne le dis pas tout de suite aux disciples et je ne le dis à personne. Je laisse les disciples dans la Moïse, quoi. Et puis, on verra comment ils se dépatouillent. Mais moi, je vais le faire, ce miracle. Jésus avait déjà prévu de nourrir la foule par un miracle. Mais pourquoi alors Jésus place-t-il délibérément ses disciples dans une situation impossible ? Pourquoi ? Ben, il veut leur apprendre à mettre leur foi en lui, en pratique et au quotidien. Toute petite application, si tu es dans une situation impossible où tu n'as pas de réponse, c'est peut-être Jésus qui t'a mis dans cette situation-là. Et il veut t'apprendre à dépendre de lui. C'est ce que les disciples ont appris ici. Et il veut changer Jésus, leur « ça ne suffit pas ». Combien de fois, moi, je me retrouve dans des situations, « mais Seigneur, ça ne suffit pas ». Il n'y a pas assez de finances pour ce projet-là. Il n'y a pas assez de gens qui s'engagent dans cette activité. Je n'ai pas assez de temps pour finir ça. Ça ne suffit pas. Jésus veut changer nos « ça ne suffit pas ». Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, au verset 11, comme on l'a dit. Hein. À ce stade du récit qu'on vient de lire dans Jean 6, hein, à ce stade du récit, le miracle n'a pas encore eu lieu. Hein. Dans la tête de Jésus, oui, c'est clair, j'imagine Jésus qui doit se retenir de rire. Oh là là, ça crie de partout, les gens ont faim, il est tard, on est dans un lieu désert. Les disciples tournent comme des toupies en sachant pas quoi faire. Ils pleurnichent, ils paniquent. Moi, j'ai la solution, il y a un miracle qui va se faire. Mais je les laisse un petit peu là-dedans. Le miracle n'a pas encore eu lieu. Et les disciples vont apprendre à dépendre de Jésus et voir un miracle extraordinaire. Ils vont apprendre à placer leur confiance en lui. Vous savez, ces derniers jours, moi, j'ai fait une liste sur ces 2 dernières années. Je ne parle pas des 40 ans de ministère que j'ai. Mais ces 2 dernières années, j'ai noté 20 miracles. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes qu'ici. Hein. Dieu n'a pas forcément changé le multiplier les pains. Hein. Il y a eu d'autres choses. Comment Dieu a conduit ? Il le fait. De toute façon, Dieu nous conduit. Dieu est souverain dans tous les détails, hein, même les plus insignifiants. Et quand on regarde dans le passé, on se dit, mais ah oui, ben, je priais pour ça, ça s'est fait. Je priais pour ça, ça ne s'est pas fait comme j'avais pensé, mais Dieu m'a conduit autrement. Mais il l'a fait, il m'a conduit. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation qui est autre que je n'ai jamais vue, puis je panique. Oui, on est toujours dans des situations différentes, dans lesquels on doit chaque fois réapprendre à replacer notre confiance en Jésus, puis à faire un pas après l'autre, et probablement dans le noir. On ne voit pas. Jésus, lui, voit le miracle qu'il va accomplir. Mais à ce stade, les disciples, non, ils ne voient pas. Ils font un pas après l'autre, sans savoir où ils vont vraiment. Ils vont apprendre, les disciples, à placer leur confiance en lui. Alors, il y a ce gamin, hein. On se replace dans la scène, on est dans un lieu désert, il est tard, il y a beaucoup de monde, il y a un jeune homme qui est là avec ses 5 pains et ses 2 poissons, il y a les disciples qui ils sont perdus, ils sont à l'ouest, et il y a Jésus. Bon, on lui apporte les 5 pains et les 2 poissons. Vous savez, 5 pains, ce n'est pas beaucoup. Ma femme fait des tresses, elle en fait 4. Mais j'imagine que elle en fait 4 parce que c'est 4 qu'on arrive à mettre dans le fourneau. Hein. Autrement, elle en ferait 5 ou 10. Surtout avec notre appétit. Hein. Mais là, il y a 5 pains. Ça ne doit pas être des pains comme la tresse de ma femme. Ça doit être un peu plus petit, donc 5 pains. 5 pains et j'ai plus 2 poissons, je crois. Alors, c'est tellement simple. C'est banal. Et j'imagine la scène, les disciples à l'ouest, le jeune avec ses 5 pains, qui correspondent peut-être à une tresse de ma femme. Hein. Si je la coupe en 5, ça fait 5 pains. les poissons. C'est tellement banal. Mais Jésus prend ce qu'on lui donne. Il prend. J'imagine la scène où Jésus prend dans ses deux mains ses cinq pains et ses poissons. Il les prend. Mais il s'attend à ce qu'on lui remette ce que nous avons. Le peu que nous avons. Jésus s'attend à ce que nous le lui donnions. Cinq pains de poisson. J'aimerais faire trois brèves remarques au sujet de cet apport. C'est possible. Cinq pains et deux poissons, c'est ce que ce jeune garçon avait. Mais Dieu ne m'a pas l'impossible. C'est possible de le faire. C'est possible de donner cinq pains et deux poissons. Dieu n'a jamais demandé l'impossible. On ne peut pas se placer dans des situations où on ne sait pas quoi faire, mais on fait un pas après l'autre. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est possible. Hein? Dieu ne demande jamais l'impossible. C'est lui qui le fait l'impossible. Moi, je ne peux pas le faire. Alors là, ce que, au fond, Jésus demande, apportez-les-moi, c'est un ordre qu'il dit, ben, apportez-les-moi, donnez-les-moi. C'est possible de le faire. Il n'y a rien de miraculeux à ce stade-là. Hein? Bon, c'est possible, cinq pains et deux poissons, c'est ce que ce jeune garçon avait. Dieu ne demande pas l'impossible. En tout cas, moi, Charles, je ne pourrais jamais accomplir l'impossible. Hein? Dieu ne nous demande que ce qui est possible qu'on fasse. Et il fait la différence. Mais j'allais dire, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que Dieu va multiplier à travers ses cinq pains et ses deux poissons. Mais vous me direz, Dieu est tout puissant. Mais Jésus, bien sûr, il aurait pu prendre des pierres ou l'herbe des champs qui était là sous ses pieds et multiplier ça et en faire des pains et des poissons. Oui, il aurait pu. Il l'a fait, du reste, pendant 40 ans, quand le peuple était dans le désert, en apportant les cailles et la manne. Mais ici, dans ce contexte, Dieu choisit de faire un miracle à partir de ce qu'on lui apporte, même si c'est si peu, sans ce geste de remise à Dieu, le miracle ne se serait pas réalisé. Alors il y a une petite contribution humaine, en tout cas dans cette histoire, mais qui est si minime, on n'aurait même pas envie de la relever, mais Jésus a choisi d'agir à partir de cet apport-là. Alors la troisième remarque, comme je l'ai dit, c'est peu. C'est peu et totalement insuffisant. Qu'est-ce que Jésus fait une fois qu'il a cet apport dans les mains? Il y a eu un geste, hein? Il y a ce jeune qui a pris, et Jésus a ça dans la main maintenant. Qu'est-ce que Jésus fait quand il a ses cinq pains et ses deux poissons dans la main? Jésus est content, il se réjouit. Au verset 11, il rend grâce. Mais imaginez encore une fois la scène. Vous avez 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Vous avez les disciples qui ne savent pas quoi faire là au milieu. Et vous avez Jésus qui rend grâce. Peut-être qu'il rend grâce parce qu'il est content, se disant au moins moi j'ai les pains dans ma main, je les mange, puis je suis content. Pour quelle raison Jésus rend grâce pour les cinq pains et les deux poissons? Pour donc quasi rien. Quasi rien, Jésus rend grâce. Ensuite, il les rompit. Comme je l'ai dit, cette histoire est dans les quatre évangiles. Et j'ai un petit peu pioché chez Marc et chez les autres évangélistes aussi. Mais Marc 6, 41 donne deux, trois éléments intéressants. Il les rompit. Jésus rompt le pain. Ça vous rappelle la Sainte Cène. Mais ça vous rappelle aussi le sacrifice de Jésus qui a été rompu pour nous, son corps. Un brisement est nécessaire et j'y reviens tout à l'heure. Mais jamais une destruction. J'allais dire que si je fais déjà maintenant aussi une application, il n'y a pas de marche chrétienne sans un brisement. Vous savez, quand on s'engage avec le Seigneur, il y a la bénédiction, mais il y a aussi le brisement. Et le brisement est au final une bénédiction. pensez à toutes ces personnes, Abraham, Joseph, Moïse, Paul, Jésus, j'aurais pu en prendre tellement plus. Mais pensons une seconde à Abraham. Abraham, Dieu lui dit en Genèse 11, 12 et suivant, « Je ferai de toi la nation la plus grande de la terre, plus grande que les sables de la mer, mais sa femme est stérile. » Et quand enfin elle arrive à mettre au monde un fils, eh bien lui, Dieu lui demande ce fils en sacrifice. Mais imaginez Abraham, « Mais Seigneur, tu as promis que ma postérité serait la plus grande de la terre. » Mais non seulement ma femme a été stérile pendant des années, mais le seul que tu m'as donné, tu me le redemandes. Mais Dieu a accompli sa promesse et il a fait d'Abraham la nation la plus puissante de la terre. Et l'Église est en Abraham parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, eh bien, c'est l'Église. Donc l'Église est en Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Sur un point spirituel. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a un étudiant à l'école biblique qui a fait un travail sur la théologie de l'Alliance. Et qu'est-ce que j'ai aimé ce travail ? L'adoption dans le cadre de la théologie de l'Alliance. Abraham, mais quel brisement ! Avant la bénédiction, le brisement. Je pense à Joseph qui reçoit des révélations absolument extraordinaires, mais qui est tout de même un petit peu orgueilleux avec sa grande tunique pleine de couleurs. Il en jette sur la galerie et ses frères sont jaloux à mourir et le jettent dans une fosse et il finit croupi au fond d'une prison. Là aussi, il est accusé de vouloir faire des avances à la femme du roi et il se retrouve encore une fois en prison complètement accusé injustement. Et à un moment donné, Dieu permet qu'il sorte parce qu'il a la révélation des songes et Dieu l'établit comme gouverneur, intendant sur toute l'Égypte pour récolter le blé et pour permettre à son peuple, à un moment donné, de ne pas tomber dans la famine. Mais avant que Joseph soit élevé, vous imaginez le brisement et les injustices. Et pourquoi Dieu a permis ça dans sa vie ? Mais il fallait que Joseph passe par ce creuset avant qu'il devienne l'homme de bénédiction qu'il a été. Et je pense à Moïse. Moïse qui a été élevé à la cour du Pharaon. Mais Moïse dans la Bible dit que c'est l'homme le plus patient de la terre. Mais vous vous souvenez de l'épisode où il a tué un Égyptien de colère. Un Égyptien qui s'en prenait à une personne hébreu. Moïse s'est fâché et il a tué cet Égyptien, donc ce n'est pas un homme forcément qui est très patient. Et la Bible dit de Moïse que c'est l'homme le plus patient de la terre. Mais avant qu'il le devienne et avant qu'il conduise pendant 40 années un peuple dans le désert avant d'accéder à la terre promise, il a fallu que Moïse vive ce brisement. Et je pense à Paul, l'apôtre Paul. Quel autochtone théologien systématique, évidemment, Paul, c'est notre meilleur ami. Hein? Et on se garde bien d'offenser Paul. Et dans tous mes cours, je dis attention, je ne vais jamais dire quelque chose contre la théologie de Paul. Déjà, ça ne serait pas biblique, mais je n'ai pas envie que Paul me tire les oreilles une fois que j'arrive là-haut, parce que Paul, ce n'est pas n'importe qui. Mais avant qu'il soit l'apôtre, et qu'il écrive ce qu'il a écrit au niveau de la doctrine chrétienne, eh bien, Paul était un persécuteur de l'Église, et il y a eu le brisement sur le chemin de Damas. Vous le savez, mais pas de bénédiction sans brisement. Et je pense à Jésus. Mais moi, vous me direz, mais Jésus n'avait pas besoin d'être brisé par rapport à son orgueil, sa suffisance. Non, c'était le Fils de Dieu, il était parfait. Pourquoi Jésus a-t-il vécu le brisement ? Eh bien, s'il ne l'avait pas vécu, le brisement de la croix, nous n'aurions aucune bénédiction et personne ne serait sauvé. Jésus a accepté le brisement de la croix, non pas parce qu'il avait besoin d'être brisé comme les autres, mais il l'a accepté pour que nous vivions et pour que nous recevions le salut. Jésus brise les pains Et ce brisement est nécessaire avant la bénédiction. Quelquefois, on vit le brisement, mais on ne se rend pas compte que Dieu le permet dans nos vies et il est nécessaire avant la bénédiction. Je pense à des serviteurs qui m'ont marqué. Il y en a deux en particulier, Michel Renevier. Quel brisement, cet accident. Mais quel ministère béni. Je pense à Jean-Claude Chablot, qui est un modèle pour moi. Moi, je l'ai connu dans l'intimité, puisque j'ai été son stagiaire et qu'on a gardé un contact pratiquement jusqu'à la fin. Mais sa santé était très compliquée. Quel brisement. Mais quelle bénédiction de ministère. Allons plus loin, et ensuite, il les donna. Je reviens au pain. Ça, c'est le fruit du béni du brisement. Au début, on a 5 pains et 2 poissons. Maintenant, ça, c'est mon estimation, ce n'est pas la parole. Mais j'imagine, le texte nous dit que la foule avait faim, qu'il était tard, qu'il n'y avait rien à manger. Donc moi, je pense que 2 à 3 tonnes de pain, des quantités de poissons, quel miracle, quelle abondance, quel prodige, mais après le brisement. Et si Jésus tarde à faire le miracle, c'est qu'il faut peut-être passer par cette période de brisement. Après, l'apprentissage de la foi. Alors j'aimerais dire en conclusion, Jésus nous met dans des situations où nous apprenons à lui faire confiance. Dans ces situations, il s'attend à ce que nous lui donnions le peu que nous avons. Je rajoute que ces situations peuvent être des brisements qui peuvent durer un certain temps. Dieu nous invite à nous donner à lui, à lui faire confiance en toute situation. Qui veut ce matin apporter à Dieu ce qu'il a ? Son pain, ses poissons, c'est quoi ? C'est tellement peu de choses. Sa vie, son temps, sa louange, mais peut-être aussi ses soucis, ses problèmes, ses situations impossibles. Et lui faire confiance. Amen. Que Dieu vous bénisse.